Vous, téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Il est 9h40 sur France Inter, démarrage en trombe de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
La matinale de France Inter a interrogé pour vous tout à l'heure le travail des journalistes d'investigation sur les affaires qui rythment cette campagne. L'Instant M prend la suite avec une émission de télévision qu'on n'attendait pas forcément sur ce terrain-là. Quotidien, Yann Barthès, tous les jours sur TMC, regardé énormément par les jeunes. Evelyn Vlac, quotidien qui révèle les CDD en série signés par Bruno Leroux à ses filles. Evelyn Vlac, le ministre de l'Intérieur qui démissionne. Bonjour Valentine, non pas Valérie. Valentine Auberti.
Bonjour.
Vous pilotez l'opération Parlement Transparent qui interpelle non seulement les députés mais également les téléspectateurs de Quotidien, en clair, nous les citoyens. Mais d'abord Bruno Donnès, salut Bruno.
Bonjour Sonia.
Christine Angot face à Fillon. C'est les tenants et les aboutissants de l'interview politique qui valent dingue et Bruno Donnès aussi, forcément.
L'Instant M, tous les médias sont sur France Inter.
Depuis jeudi, Bruno, vous ne cessez d'être surpris par la nature du débat qui a enclenché la passe d'armes entre Christine Angot et François Fillon sur France 2. Et vous vouliez absolument y revenir ce matin sous un angle, précisons-le, c'est l'objet de l'Instant M,
absolument.
Purement médiatique.
Oui Sonia, car le débat auquel on assiste en quelque sorte, est-ce que ça se fait ou est-ce que ça se fait pas ce qu'a fait Christine Angot jeudi dernier. Tout le monde a son avis sur la question, tout le monde, même François Hollande qui l'a livré hier soir dans les colonnes du Monde, estimant que cet épisode abîme la politique. Alors je ne sais pas si ça abîme la politique ou pas, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de tenter de comprendre pourquoi c'est arrivé et ce que ça dit précisément. Et pour le savoir, eh bien, il faut réécouter les 5 dernières secondes de l'intervention de Christine Angot. Car qu'a-t-elle dit très exactement à François Fillon avant de quitter le plateau ?
Vous savez pourquoi il m'a fait venir ? Il m'a fait venir parce que ce que je viens de vous dire, eux, ils peuvent pas le dire.
Voilà, elle lui a dit deux choses. Un, que ce qui venait de se produire avait été organisé par la rédaction de l'émission. Et deux, que c'était symptomatique d'un immense tabou journalistique sur lequel je reviendrai. Alors, si cette séquence est particulièrement intéressante, eh bien c'est parce qu'elle montre un nouveau temps dans l'évolution des émissions politiques. Au commencement, les journalistes n'asticotaient pas les politiques, ou alors très peu, parce que ça ne se faisait pas. Les affaires sortaient dans les journaux, mais face à un homme politique, à la télévision, les journalistes la bouclaient, et malheur à celui qui oserait poser une question à Mitterrand, par exemple, sur les écoutes de l'Élysée, il se voyait immédiatement recadré sans ménagement.
Je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions.
Voilà. Ensuite, les journalistes sont devenus un peu plus audacieux. Et pour créer des temps forts dans leurs émissions qui ronronnaient un peu, ils ont décidé de bousculer les politiques et choisi de leur demander le prix du ticket de métro ou celui de la baguette de pain. Selon voilà, leurs interlocuteurs se sont adaptés, ils ont inventé les communicants et les éléments de langage et il est devenu très difficile de les coincer. Alors, pour créer de nouveaux moments de rupture, des instants de tension, la télévision a convoqué les fameux vrais gens. Montrez mon défaut, on en reparlera. Bon, ces étudiants, ces agriculteurs, ou ces chômeurs qui, comme Isabelle Maurer face à Jean-François Copé, avaient pour mission de paraître plus crédibles que les journalistes pour dire aux politiques qu'ils ne connaissaient rien de la réalité.
Vous c'est avez quelque chose à dire à Jean-François Copé. Ce que vous voulez nous dire, monsieur Jean-François Copé, parce que quand on vit, on survit, monsieur Copé, avec le peu qu'on ose nous donner, bientôt on pourra plus payer un morceau de savon pour se laver, et il faudrait encore que je dise merci.
Voilà, ça c'était du moment de télé, Coco, parce que c'était du vécu. Le problème, c'est que le vécu, eh ben, il a vécu. Et dans la campagne présidentielle hors norme que nous traversons, le nouveau problème auquel l'affaire Fillon confronte les journalistes, c'est celui de la morale. Le hic, c'est que c'est un terrain sur lequel les journalistes refusent d'aller parce que ça ne se fait pas. Du coup, comme il l'avait fait hier avec la connaissance du réel incarnée par les vrais gens, il sous-traite aujourd'hui à d'autres le champ de la morale. Et c'est très précisément parce qu'ils ne se sentent pas autorisés à le faire, parce qu'ils considèrent que c'est une des limites de leur métier, qu'ils ont invité Christine Angot à demander à leur place à François Fillon s'il n'avait pas honte.
Vous ne reculez vraiment devant rien.
Incroyable.
Bref, médiatiquement parlant, l'épisode Angot-Fillon signe que les journalistes refusent d'arpenter le terrain de la morale et qu'ils préfèrent demander à un écrivain de venir dire « je ». Alors, quand la morale est malmenée, un écrivain est-il plus légitime qu'un journaliste pour la questionner ? C'est aussi l'une des interrogations que soulève l'affaire Fillon.
Vous ne nous laisseriez pas sur une question, là ?
Absolument.
Vous nous donnez. Ben c'est très bien, on va la poser tout à l'heure à Valentine. Non, là, tout de suite, maintenant, à Valentine Auberti. Est-ce qu'on interroge sur les faits ou est-ce qu'on interroge sur la morale et sur ce que ça fait sur nous, ces faits-là ? Valentine Auberti.
L'Instant M, avec Sonia De Villers.
Alors ce matin sur France Inter à 8h47 précisément, Olivier, auditeur de France Inter, posait par téléphone la question suivante à Patrick Cohen.
Je repense à l'affaire Leroux, lorsque l'ancien, maintenant ministre de l'Intérieur, a pris ses fonctions, on a sorti une affaire sur lui quelques jours après. Je trouve ça finalement un petit peu, c'est très bien qu'on sorte des affaires, et c'est très très bien, ça aide à la transparence de la vie publique, mais est-ce que c'est pas un petit peu vicieux, entre guillemets, d'essayer de fouiner au moment où les candidats sont déjà sur la ligne de départ? Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer un système, parce qu'on sait d'où viennent en général les personnalités politiques, ce sont des élus ou des parlementaires, il n'y en a pas finalement tant que ça, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un système qui vise un petit peu à garantir la transparence de leur vie, de leur fonction, mais avant qu'ils puissent accéder à des responsabilités importantes?
Il est parfait, Olivier, non, Valentine?
C'est sûr que c'est mieux de faire ça avant qu'après.
Mais... Voilà, alors Valentine Auberti, journaliste dans l'équipe de l'émission Quotidien. Celle-ci, l'émission Quotidien, invite sur son plateau Didier Migaud, qui est donc premier président de la Cour des comptes. Question de Yann Barthès, qui contrôle les dépenses des députés et des sénateurs? 5 secondes de silence, réponse, personne ne les contrôle en tant que tel. Or, il s'agit d'argent public, de notre argent.
Interpellez vos députés avec ce hashtag, interpellez vos sénateurs, interpellez les candidats à la présidentielle, c'est possible grâce aux réseaux sociaux, grâce à la presse, bougez-les, on pense que la politique doit être un service, et si on fait de la politique, c'est qu'on a envie de rendre service au pays, et pas le contraire. Hashtag Parlement transparent.
Voilà, vous en avez fait une rubrique, un jingle, vous en avez monté
11 épisodes.
Toute une opération. Pourquoi d'abord interpeller le public, Valentine Auberti? La démarche journalistique n'est-elle pas suffisamment légitime en soi? Est-ce que vous avez besoin des téléspectateurs? Est-ce que vous avez besoin des citoyens?
Alors, on a commencé par interpeller les députés et les sénateurs, mm-hmm. puisqu'on leur a envoyé un questionnaire aux 925 parlementaires qu'on a compilé ensuite donc dans l'émission, et puis sur une carte sur le site. Et on a aussi interpellé les citoyens parce qu'en fait, quand on va sur le terrain, on se rend compte que ce sont des questions qui les intéressent au plus haut point, surtout dans le contexte électoral et puis le contexte de l'affaire Fillon et puis des affaires qui se sont accumulées au fil des ans. Mm-hmm. Donc en fait, on s'est dit, si nous on n'a pas de réponse, n'hésitez pas. Après tout, ce sont vos députés, ce sont vos sénateurs, c'est vous qui les lisez et c'est eux qui demandent votre suffrage.
Est-ce que c'est un bouclier en ce moment face aux critiques qui arrivent tous azimuts depuis les politiques, mais y compris aussi des journalistes eux-mêmes. Routel Krief prévient sur BFM TV au moment des révélations du canard enchaîné, la transparence, attention, ça peut s'avérer totalitaire. Hervé Gattegno, qui est aujourd'hui patron du JDD, a écrit de nombreux éditos sur la question. Je le cite, à force d'exiger des élus qu'ils pratiquent le striptease patrimonial, on finira par avoir des politiques si médiocres qu'en effet, on pourra dire qu'ils sont transparents.
Alors pour l'histoire du bouclier, non, nous on se prive pas de poser les questions aux gens qu'on reçoit ou qu'on croise sur le terrain. Il peut arriver effectivement qu'on ait des invités, des vrais gens comme on dit, des citoyens qui vont à un moment avoir un échange, parce qu'effectivement parfois on se demande si les politiques envoient souvent des vrais gens. Mais non, on pose les questions et on a vraiment pas peur de les poser. On aime bien d'ailleurs poser des questions une fois, deux fois, trois fois. Sur la suite de la question, à savoir la transparence, est-ce que c'est totalitaire? Oula, moi je trouve que c'est un peu fort de dire ça. La question, c'est simplement de porter des faits à la connaissance du public, du citoyen. Ce sont des faits parfois qui ne sont pas forcément secrets. Ce qui se passe à l'Assemblée, au Sénat, c'est pas forcément secret, mais ce n'est pas su. Exemple, qui sait que l'IRFM, l'enveloppe des frais de mandat, donc les quelques 6 000 euros que les députés ont chaque mois pour payer leur permanence, leur essence, leur voiture, qui sait que cette enveloppe-là n'est contrôlée par personne? Quand je dis personne, c'est personne. Pas de contrôle, pas de facture. Vous, quand vous prenez un taxi pour France Inter, vous donnez une facture. Sinon, vous ne le remboursez pas. Eux, rien. Ils ont les 6 000 euros, ils en font ce qu'ils veulent. Ça, les citoyens ne sont pas forcément au courant.
Absolument.
On estime que ça vaut le coup de le rappeler. On estime que ça vaut le coup de faire de la pédagogie là-dessus. Et c'est quoi la pédagogie? C'est répéter, c'est expliquer.
Et c'est poser des questions. Valentine Auberti, avant Quotidien, vous avez travaillé brièvement à Radio France et à RFI. Vous êtes passé par Mediapart, où vous avez traité l'affaire HSBC, l'évasion fiscale, les lanceurs d'alerte, Hervé Falciani. Sujet et personnage que vous avez retrouvé chez Cache Investigation. Vous avez participé à la grande enquête sur l'évasion fiscale. À croire que vous avez commencé le journalisme à 12 ans et demi. Alors, je suis revenue sur vos enquêtes déjà à l'époque de Mediapart. Vous aviez beaucoup travaillé sur cette question de l'IRFM, justement. Vous aviez pointé... que lors de la précédente mandature, justement, juste avant les élections législatives, l'Assemblée nationale avait demandé aux députés de reverser la part de cette enveloppe qu'ils n'avaient pas utilisée. Et des consignes comme ça, il n'y en avait pas eu ni en 97, ni en 2002, ni en 2007. Elle est pile d'actualité, cette enquête de l'époque.
Ouais, elle est pile d'actualité. Et ce qui me sidère, c'est que quand on publie sur Mediapart cette enquête qui concerne un député socialiste, qui donc, je le rappelle, utilisait son IRFM pour notamment partir en vacances.
Alors, il s'appelait Pascal Terrasse.
Il s'appelait Pascal Terrasse. Je crois qu'il est toujours député. Donc ça, on est en 2012. Depuis, donc
vacances
5 ans
en famille
plus tard,
au Sénégal, en Égypte,
voilà,
en Espagne,
en Grèce,
sur des terrains qui n'avaient absolument rien à voir
non,
avec ses mandats de député.
Absolument rien. 2012, cette enquête est publiée. 2017, qu'est-ce qui a été fait par l'Assemblée ou le Sénat sur l'IRFM, si ce n'est éventuellement, ce qui a été fait effectivement, c'est d'avoir circonscrit les postes de dépenses, de dire on peut utiliser l'IRFM pour la permanence, l'essence, les communications, etc. Mais pas de contrôle. Le déontologue a proposé d'avoir accès au relevé de compte IRFM. Le compte IRFM, c'est un compte purement professionnel. Là, on n'est pas en train d'asticoter l'intimité des députés ou des sénateurs comme on veut parfois nous le faire croire. Eh bien, cette demande du déontologue a été rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale présidé par Claude Bartolone. Et
alors,
ça, on s'en est étonné. Et on a voulu poser la question à Claude Bartolone, malheureusement, il ne nous a pas répondu.
Il ne vous a pas répondu, il n'est pas le seul. On va passer en revue les quatre questions que vous adressez donc aux 925 députés, comme vous le dites.
Et sénateurs.
Et sénateurs, il n'y en a que 165 qui ont répondu. En deux mois, c'est peu.
On va les relancer,
alors,
ils peuvent faire mieux.
Je précise que vous en avez fait donc une carte, que cette carte, elle est accessible sur le site de l'émission Quotidien hébergée par TF1, mais que vous en avez également fait un site à part entière, hein, parlementtransparent.fr. Les quatre questions, accepteriez-vous...
Non, pardon. Oui. Parlementtransparent.fr, c'est une initiative qui est née de citoyens, justement, et qui...
De regard citoyen,
d'eux-mêmes, voilà, d'eux-mêmes ont préparé, en fait, des tweets tout prêts avec les questions. Et donc, si moi, j'ai un compte Twitter, je clique, ça écrit déjà le tweet et ça permet de l'envoyer à son élu.
Voilà, c'est une façon d'utiliser les réseaux sociaux
Exactement. Pour
interpeller ses élus. Alors, vos questions, elles sont au nombre de 4. Accepteriez-vous qu'une institution indépendante et externe contrôle les comptes du Parlement ? Accepteriez-vous qu'une institution indépendante et externe contrôle les dépenses liées à l'exercice de votre mandat ? Là, on est pile dans ce que vous venez de nous raconter. Êtes-vous pour ou contre l'interdiction de l'embauche d'un membre de sa famille comme collaborateur parlementaire ? Et quatrième question, pour la prochaine campagne des législatives, êtes-vous prêt à vous engager pour un Parlement plus transparent ? Ce qui est assez étonnant, c'est que vous recevez beaucoup de réponses de gens qui ont travaillé dans les arcanes de la République depuis très longtemps, qui vous disent « mais moi j'ai rien à vous dire puisque je me représente pas ».
Ouais, on a eu plusieurs réponses comme ça, c'était rigolo. Je ne peux pas vous répondre, je ne me représente pas.
Voilà.
Mais si, enfin justement, vous avez une expertise, vous connaissez parfaitement ces chambres, on a hâte de savoir ce que vous en pensez.
Voilà, Bruno Leroux.
Vous pensez que ces pratiques qui sont légales bien sûr, non mais je ne parle pas d'emploi fictif, mais est-ce que ces pratiques qui sont légales sont encore acceptables ? Est-ce que pour la population il peut y avoir une forme de népotisme qui est difficilement compréhensible ?
Non, parce que je crois que sur les boulots, ce qu'on appelle les boulots d'été, bien souvent, et moi je me souviens d'avoir pris aussi des gens qui m'étaient recommandés sur l'été, et donc je crois que c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement, d'essayer de faire découvrir des choses, d'essayer de faire découvrir un travail.
925 élus, la palette est très très large. Comment le cas Leroux est arrivé sur la table ? Pourquoi s'intéresser à Bruno Leroux ?
Eh bien parce qu'on a travaillé donc avec Parlement Transparent pendant des semaines sur l'Assemblée, à plusieurs. Je rappelle qu'on est toute une équipe et je voudrais citer mes deux consoeurs, Fanny Anotte et Rebecca Sunner, avec qui j'ai travaillé notamment sur l'affaire Leroux. Donc on travaille pendant des semaines sur cette question. C'est dans ce cadre que naît l'affaire Leroux, à partir de discussions, de rencontres, de gens qui nous parlent. Et puis à un moment, il y a un fil à tirer et ce fil, on le tire et puis la pelote se déroule.
Et la pelote se déroule. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont réagit Bruno Leroux. Là, on a entendu un tout petit sonore. Alors, vous n'êtes pas dans le questionnement moral que soulevait justement Bruno Donnet juste auparavant, mais vous passez par l'intermédiaire des citoyens. Est-ce que vous comprenez que ça choque, que ça puisse être perçu comme du népotisme, qu'aujourd'hui ça ne passe plus ? Comment y réagit le ministre quand il voit approcher les journalistes ?
Alors, dans ce cas précis, quand nous on l'a approché, en fait, on est venu en marge, on est allé à un déplacement, et en marge de ce déplacement, on lui a posé la question. Au tout début, il veut pas répondre, il dit c'est pas le sujet du jour, et puis bon, on insiste, et il finit par répondre.
Pourquoi en marge d'un déplacement, vous lui avez demandé rendez-vous, interview, vous
êtes... le choix qu'on a fait, qui est assumé, c'est d'avoir le ministre en face de nous, sans qu'il ait connaissance de la question. Moi, j'avais envie d'avoir sa réaction spontanée. J'avais pas envie d'avoir une réponse de communication toute faite, comme on en a souvent avec le milieu, notamment politique.
Donc il n'était pas au courant de votre enquête ?
Il n'était pas au courant de notre enquête. Mm-hmm. Il n'y a aucune raison pour qu'on le mette au courant de l'enquête. Ce qu'on lui propose, en revanche, c'est évidemment de pouvoir nous répondre dans le respect le plus strict du contradictoire. Oui. Donc on vient à un déplacement, et puis en marge de ce déplacement, on lui prend 3 minutes et on essaie de lui poser une question à laquelle il finit donc par répondre, puisque il n'avait pas trop le choix, la caméra tournait. Et puis on retourne 4 jours plus tard à un autre déplacement pour lui poser une autre question, cette fois sur l'âge d'embauche de ses filles. Donc ça a commencé à 15 ans et demi pour l'une, 16 ans pour l'autre. Et là, il a exactement la même réaction.
C'est-à-dire, ce qui est relativement surprenant, c'est qu'il ne voit pas le problème.
Effectivement, moi j'ai été un peu désarçonnée d'entendre effectivement le ministre de l'Intérieur, ancien député, ancien président du groupe PS, dire qu'il n'y avait pas de problème, ou en tout cas qu'il ne comprenait pas, compte tenu du contexte, que ça puisse choquer. Depuis l'affaire Fillon, on les a entendus, les gens, les électeurs qui s'apprêtent à mettre un bulletin dans l'urne au mois d'avril, on les a entendus dire qu'ils n'avaient plus confiance en leurs hommes politiques. Et donc, effectivement, ne pas dire oui, peut-être qu'effectivement les gens ne peuvent ne pas comprendre, ça nous a étonnés. Mais après, sa réponse lui appartient.
Alors, réaction immédiate au lendemain d'abord de vos révélations, et puis on a très rapidement appris l'entrée en jeu du PNF, du parquet national financier, et puis la démission du ministre de l'Intérieur. Des réactions tous azimuts. Et parfois, on vous accuse d'être instrumentalisé. Souvent même, on vous accuse de créer une sorte d'écran de fumée, comme s'il fallait qu'il se passe quelque chose à gauche, parce qu'il se passait quelque chose à droite. Bruno Retailleau, porte-parole de François Fillon, appuie dans plusieurs interviews sur le « comme par hasard, c'est pas étonnant, ça sort maintenant, méfiez-vous des calendriers ». Gérard Larcher, président du Sénat, dit « on va quand même pas ouvrir une information à chaque fois qu'un média nous entre guillemets, fait des révélations.
Alors, moi, je ne sais plus quoi comprendre de leur réaction. C'est-à-dire que avant que l'affaire Bruno Le Roux éclate, on nous explique qu'on s'acharne sur François Fillon et toujours sur le même. Et puis, quand l'affaire Le Roux éclate, on nous explique qu'en fait, c'est une manière de nuire à François Fillon quand même. Bon, nous, c'est... Ça ne nous intéresse pas tout ça. En fait, on travaille et puis à un moment, on a des informations et la seule question qu'on se pose, c'est est-ce que cette information vaut la peine d'être révélée au public ? Est-ce que c'est une information d'intérêt général, d'intérêt public ? La réponse était oui, les informations étaient vérifiées. Encore une fois, ça entrait dans le cadre de cette opération Parlement transparent, dans un contexte, et donc on a publié sans se poser davantage.
Un dernier mot sur ce qui a peut-être fait école chez vous, le Daily Telegraph en 2009, c'est-à-dire le grand scandale britannique qui a été révélée par la presse, Valentine Oberti.
Effectivement, dans un des épisodes de Parlement transparent, on est revenu sur le modèle britannique qui a eu, en Grande-Bretagne, quand il y a eu cette histoire des notes de frais, on a créé une institution externe, indépendante, et aujourd'hui toutes les notes de frais des parlementaires britanniques sont consultables sur le site de l'IPSA, qui est cette fameuse institution. Donc en termes de transparence et de rigueur, et peuvent être un modèle.
Un modèle. Merci beaucoup Valentine Oberti. TMC sur TMC ce soir, Quotidien 19h20. Et puis Parlement Transparent sur le site de Quotidien ou alors le site parlementtransparent.fr. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia de Villers.
Bonjour Ali.
J'essaie de décoder votre langage corporel. Oui. C'est le thème de notre émission ce matin.
Parce peut-on que je rigole beaucoup, je parle tout le temps avec les mains. Oui.
Peut-on vraiment décoder le langage corporel ? Quelles sont les preuves scientifiques des méthodes qui prétendent décoder nos gestes, attitudes et mimiques ? S'agit-il de pseudosciences, voire de charlatanisme ? 01 45 24 7000.